Vous aimez les déserts? Moi, je les aime seulement en photo. Parce que dedans, non. Par contre, j'ai appris à dire merci à Dieu pour les déserts dans lesquels il m'avait fait passer. Parce que ces déserts ont été salutaires, ces déserts ont été des clés de bénédiction, ces déserts ont été des chemins d'abondance, des chemins de plénitude, des chemins d'exaucement, des chemins de bénédiction, des chemins de pays promis. Et une fois que j'étais sorti du désert, j'ai dit « Ah Seigneur, t'as quand même bien fait de m'y faire passer ». Mais quand je suis dedans, j'aime pas, je suis honnête. Je préfère la photo que la réalité du désert. Mais c'est un principe biblique, c'est indispensable. Il y a énormément de références dans la Bible au sujet du désert. Il y a beaucoup à apprendre. Et ce qui m'a vraiment interpellé pour chacune de nos vies, dans toutes nos situations, j'essaierai d'être le plus pratique possible. Et ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai vraiment ça sur le cœur, c'est que chacun puisse sortir de son désert, quelle que soit sa forme. Une chose est sûre, claire, nette, précise, Dieu ne veut pas que nous mourions dans nos déserts. Le but de Dieu, c'est le pays promis. Dieu veut que nous sortions de nos déserts. Maintenant, certains s'en sortent, d'autres s'en sortent pas. Et moi, c'est comme ça, c'est plus fort que moi, il faut toujours que je comprenne, je veux savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où sont les enjeux, où est-ce que je me suis trompé, où est-ce que j'ai pris peut-être un chemin de traverse, où est-ce que j'ai fait un détour, où est-ce que, je ne sais pas, mais pourquoi, alors que peut-être dans une situation ou une autre, je prie, je demande, j'insiste, je persévère, il ne se passe rien, je suis toujours dans le désert. Alors, on va commencer simplement à faire des lectures dans le livre de l'Exode, s'il vous plaît. Je vais essayer de structurer au mieux les pensées et les méditations depuis ce matin jusqu'à mercredi soir, parce qu'il y a une multitude de références et évidemment on ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout voir. Dans le livre de l'Exode, pour commencer, j'aimerais que on ouvre au chapitre 3. Exode au chapitre 3 et au verset 7. On va lire les versets 7 et 8. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. » Toujours dans les livres de l'Exode, on va au chapitre 13, versets 17 et 18. Vous savez qu'il y a eu toutes les plaies que la puissance de Dieu a dû déverser sur l'Égypte pour que Pharaon enfin cède et laisse partir le peuple. Et il nous est dit en Exode chapitre 13 verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique ce soit le chemin le plus proche, le plus court. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alors Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Amen. On va déjà définir ce qu'est un désert. Il faut qu'on parle des mêmes choses. Il ne faut pas qu'on soit dans une théorie biblique. Toute étude, toute méditation, toute thématique doit avoir une application pratique dans nos vies. Le désert, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue physique, pour ensuite faire une application à nos vies spirituelles. Dans le désert, par définition, il n'y a rien, pas grand-chose. Le désert, ça évoque le vide, le manque. Le désert, c'est un lieu sec, c'est un lieu aride, c'est un lieu pénible, c'est un lieu éprouvant. Vous allez dans un désert, il y a une amplitude thermique considérable. Il fait extrêmement chaud la journée et extrêmement froid la nuit. Et à cause de ces conditions climatiques, à cause de ce paysage monotone, des paysages de désespoir, de désolation, ça sent la mort et ça devient une véritable épreuve. Et où que vous portiez les yeux, vous êtes là dans un désert, même s'il y a parfois un petit peu de relief comme sur la photo, mais en vérité, du sable, du sable, du sable, encore du sable et toujours du sable à perte de vue. Dans le désert, il n'y a rien d'essentiel, il n'y a rien de légitime. Qu'est-ce qui est le plus légitime ? De l'eau et de la nourriture. Si vous allez faire une petite marche dans le désert et que vous n'avez pas pris d'eau, croyez-moi, en maximum 3 jours, c'est terminé pour vous. L'espérance de vie dans un désert est de grand maximum 3 jours. Parce que sans eau, nous ne pouvons pas aller au-delà. C'est pour ça que le désert est pressant, il est oppressant. Le désert, c'est un synonyme de vide, de manque. Il me manque quelque chose d'essentiel. Il me manque du légitime. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines concrets et pratiques, on va le voir dans nos vies, mais je crois avant toute chose que le désert est un désert spirituel. C'est-à-dire que nous sommes, les uns et les autres, dans différents moments de nos vies, dans un état de cœur, un état de sécheresse, le désert étant avant tout spirituel, il manque une dimension de vie. Il y a une nourriture intérieure légitime que je n'ai pas. Mon âme est désertique, mon âme est vide, mon âme est sèche. Il y a une dimension de vie, une eau spirituelle que je n'ai pas. La sécheresse est d'abord spirituelle. Je parle de ces moments, frères et sœurs, où Dieu semble, je dis semble parce que Dieu est toujours là, mais Dieu semble vraiment lointain, pour ne pas dire franchement absent. Vous avez déjà eu ce sentiment ? Dieu semble tellement lointain, voire absent. Et malheureusement, combien de chrétiens, de frères et sœurs, combien de croyants connaissent cette réalité spirituelle, mais pas provisoirement, mais la connaissent et puis s'installent et vivent là-dedans, excusez-moi, une vie chrétienne dans laquelle Dieu devient plus une conception, une idée, un concept, une série de rites, de traditions, Dieu devient plus un concept, une idée, qu'une puissance de vie, la réalité de sa présence. Beaucoup de gens ne connaissent pas la réalité de la présence de Dieu et vivent avec une vie chrétienne, avec une démarche intellectuelle. Et quand on leur dit « Mais qu'est-ce que tu connais, toi, de la présence de Dieu ?» Je sais qu'il y a peut-être des tas de textes bibliques que tu connais par cœur. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui ? Dans quelle mesure ton âme, elle est rafraîchie, elle est rassasiée, elle est inondée, elle est irriguée, ton âme est rassasiée par des mets gras, par des mets succulents ? Où, dans ton cœur, dans ta vie spirituelle, peut-on trouver le lait, le miel, la douceur de la vie, l'abondance de la vie de Dieu qui coule ? Alors je suis d'accord qu'on n'est pas appelé à vivre d'émotions, d'impressions, de sentimentalisme, on ne vit pas d'état d'âme, évidemment. Bien sûr, on est tout à fait d'accord, mais je suis appelé à vivre quand même dans une dimension de la présence de Dieu. Et Dieu n'est pas un concept, Dieu n'est pas une doctrine intellectuelle, il est une puissance de vie. Et le désert, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, va être avant tout un désert spirituel intérieur. Dieu me promet le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'abondance, la plénitude, l'abondance de vie, la plénitude de vie, je vous ai mis sur le PowerPoint, mais la réalité, c'est que là, à l'intérieur, le désert est avant tout une sécheresse spirituelle, personnelle, intérieure. Mais le désert prend aussi des formes pratiques dans nos circonstances. Je m'explique. Le désert prend des formes pratiques, concrètes dans nos circonstances. Et on en a plusieurs exemples bibliques. Et on passe, c'est normal, les uns et les autres, par ce genre de situation. Voyez un homme comme Abraham. Je vais vous expliquer. Je vous ai mis ici, le désert peut être familial, relationnel, sentimental, affectif, corporel, matériel, professionnel, etc. etc. Différentes formes pratiques dans nos circonstances. Vous avez un homme comme Abraham. Dieu se révèle à lui. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant lui promet une postérité. La vérité, c'est que pendant 25 ans, il n'a pas l'ombre du commencement d'un gamin. Une promesse extraordinaire, une réalité qui est aux antipodes de ce que Dieu lui a promis. Abraham est dans un désert familial, il n'a même pas l'ombre du commencement d'un enfant, il n'a même pas un fils. Et c'est ça son désert pendant 25 ans. Regardez un homme comme Joseph. Dieu lui promet, il va avoir un rôle prépondérant à jouer. Dieu a un appel particulier sur sa vie. Joseph est destiné à quelque chose de particulier. La réalité de Joseph pendant 13 années, c'est qu'il est très loin d'être le premier ministre de l'Égypte. C'est qu'il est dans une citerne, dans un désert. Et ensuite déporté comme esclave, et ensuite mis en prison, etc. etc. Et pendant 13 ans, la réalité de Joseph est aux antipodes de ce que El Shaddai, le Tout-Puissant, lui a promis. Alors Dieu lui montre un avenir puissant, mais la réalité, c'est qu'il est dans une citerne, dans un désert. Vous regardez le peuple, on l'a lu ensemble. Dieu avait dit à Moïse, « Je suis venu délivrer ce peuple et je vais l'emmener dans un bon et vaste pays, le pays de l'abondance, le pays de la plénitude, le pays où coule le lait et le miel. Je vais combler mon peuple. » La réalité, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent à Mara. « Seigneur, tu m'as promis une abondance extraordinaire. » La vérité, c'est que je n'ai même pas un verre d'eau. Désert. Pourtant, Dieu s'appelle Yahvé Jiré. Le Dieu qui pourvoit. Amen. Mais quand tu es à Mara, tu as juste été là avec ta promesse de Dieu, tu avais dit que tu pourvoirais, Seigneur. Il n'y a pas d'eau. Vous savez, nous, on lit ça comme ça, puis des fois, on est un peu dur avec le peuple. On dit, ouais, ils ont murmuré contre Moïse quand même. Frères et sœurs, ne soyons pas dans nos vies spirituelles de ceux qui murmurent contre les conducteurs, etc. Non, mais attendez, on va faire un tour dans le désert et au bout de 24 heures, on vous aurait pas d'eau. Et je vous mets une eau amère. On va voir si on ne va pas murmurer, moi le premier. Je ne sais pas, quand on lit, si on se rend bien compte qu'on a 3 jours maximum, 3 jours d'espérance de vie. Moïse, tu as dit un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. La réalité, je n'ai pas un verre d'eau. Dans quelques heures, on est tous morts. Désert. Et Dieu se révèle pourtant dans sa parole comme Yahvé Jiré. Vous regardez David. David, il a été oint par Samuel. David, il est roi. La réalité, c'est qu'il est poursuivi, persécuté par Saül. Il est obligé de fuir de désert en désert. Et le manque pour lui, ben, c'est que pour un roi, ne pas avoir de trône, c'est un comble. Dieu lui dit, tu es roi. J'ai même pas de trône. J'ai l'air de quoi? Je suis dans une caverne, je suis dans un désert, je suis à tel endroit, à tel endroit. Regardez Job. On parle bien, vous avez compris, on parle de réalité dans les circonstances de la vie. On ne parle pas forcément d'un désert physique. Job, Dieu rend témoignage de lui. Et pourtant, vous regardez dans son livre les déserts terrifiants, qu'il a traversés. Désert corporel, désert matériel, désert familial, désert sentimental, puisque même à un moment, sa femme lui a tourné le dos. Je dis, vous voyez les déserts qu'il a traversés, Job? Il y a eu des manques. Autant de choses, tout ce que je vous ai mis là, sont des choses, frères et sœurs, dans nos vies, qui sont censées être des choses légitimes. C'est l'essentiel. Et quand nous sommes confrontés à des manques de ces essentiels, de ce qui est légitime, le plus essentiel, c'est la présence de Dieu, c'est le désert spirituel. Mais ensuite, il y a aussi toutes ces formes pratiques de manque d'essentiel, de manque de ce qui est légitime. Nous sommes effectivement vraiment dans un désert. Peut-être tu es dans un désert de santé. C'est peut-être la santé de ton corps qui devient un désert. Dieu se révèle comme Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Eh mais amen, mais ma réalité, c'est que je suis dans un désert de maladie. Il y a des moments, alors que Dieu s'est révélé comme Yahvé Jiré, j'ai vu des chrétiens, ils ont eu bien du mal à trouver du travail. Alors que les gens du monde, avec 2-3 magouilles, c'était réglé. désert professionnel, désert matériel. Le désert peut prendre différentes formes. Tous ces manques, parce que ce sont des manques de choses légitimes, vont nécessairement créer une pression intérieure, une oppression intérieure, et c'est là qu'il faut vraiment savoir qui est Dieu. Il faut vraiment savoir en qui on a cru. Il faut vraiment savoir ce qui se passe. Il faut vraiment savoir pourquoi on est là. Il faut vraiment comprendre quels sont les enjeux. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne vais pas faire? Parce que vous savez, frères et sœurs, j'ai dit Dieu semble lointain. Évidemment, parce que Dieu est toujours présent. Dans le désert, vous n'êtes pas seul. Dieu est là dans le désert. Mais dans le désert, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que Dieu. C'est qui le troisième protagoniste? Le diable. Et lui, il va toujours chercher, dans cette zone de test, dans cette zone d'épreuve, dans ce chemin, on va le voir, puisque le désert n'est qu'un chemin, le diable va chercher toujours à prendre l'avantage. Puis il va commencer à nous embrouiller, à mentir, essayer de nous faire dérailler, essayer de nous faire tourner en rond, essayer de nous faire mourir. C'est pour ça qu'il m'a paru important au départ de bien définir tout ça, de savoir pour les uns et les autres effectivement de quoi on parle et de comprendre quels sont les enjeux, de comprendre ce qui se passe. Dieu se sert du désert. Je ne peux pas en parler ce matin, ce serait trop long. Dans les trois soirs, on verra souvent essentiellement les objectifs de Dieu dans le désert. Dieu permet le désert, il s'en sert, c'est un outil entre ses mains. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas ta fin, ce n'est pas là pour te faire mourir, on verra aussi, ce n'est pas là du tout pour te punir, Dieu n'a rien à régler avec toi, c'est simplement un moyen dont Dieu se sert. Il se sert de ce moyen, Dieu le permet, parce qu'il s'est fixé des objectifs. Et aujourd'hui, on est juste sur l'introduction et des généralités, mais dans les trois soirs, on parlera des objectifs que Dieu s'est fixés pour nous lorsqu'il nous fait passer par différentes sortes de déserts. Mais c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est important de comprendre le pourquoi. Très souvent, frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre, quand ça ne va pas, on dit pourquoi, en un seul mot. On cherche des raisons. La vraie question, ce n'est pas pourquoi. La vraie question, c'est pourquoi. Dans quel but ? Seigneur, tu t'appelles Yahvé Jiré et tu permets que je passe par un moment où je ne suis pas comblé. Pour quoi? Dans quel but? Et quand je suis dans le désert, il faut absolument avoir les armes, les réponses nécessaires. On verra aussi que c'est par la parole, c'est par des éléments de parole qui étaient vraiment enracinés dans le cœur, une connaissance de cœur et pas une connaissance intellectuelle, que Jésus a pu contrecarrer les mensonges du diable, qui ont été très loin, puisque le diable, il a quand même eu l'audace, il a quand même eu le toupet, il fallait le faire quand même. Citer le psaume 91 à Jésus, il fallait le faire quand même, hein. Mais le diable, il a cité le psaume 91 pour essayer de faire dérailler Jésus. Donc, moi, il faut vraiment que je sache ce qui se passe, il faut que je sois conscient des enjeux et que je sache surtout quelles sont toutes les pensées mensongères que je vais devoir évincer les unes après les autres. Comprendre ce qui se passe. Pourquoi certains s'en sortent? Pourquoi certains ne s'en sortent pas? Ah, je peux être assis dans l'église évangélique, être un bon chrétien, mais la réalité de ma vie, c'est que ma vie, c'est un désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus s'en sort au bout de 40 jours? Pourquoi une génération ne s'en sort même pas au bout de 40 ans? À part Josué et Caleb. Je dois comprendre que, oui, dans le désert, il n'y a pas que Dieu et moi. Il y a aussi l'ennemi de mon âme qui va chercher à prendre parti de cette zone de test. Et c'est important qu'on ait vraiment, frères et sœurs, les bonnes pensées. Je vous l'ai déjà dit, tout dans le domaine spirituel commence par la pensée. C'est un combat de pensée, esprit, pensée, combat spirituel, combat d'esprit, combat de pensée. Et chaque fois que vous aurez, dans certains moments de vos vies, quel que soit le sujet abordé, chaque fois que vous aurez un manque de connaissance, une brèche, une faille, un manque d'affermissement, une vulnérabilité, ah, la première chose que le diable va faire, lui qui est malin et un fin stratège, il va s'engouffrer justement dans cette brèche-là. L'incertitude, le manque de connaissance, l'Ancien Testament dit « faute de connaissance, le peuple est sans force ». L'incertitude, ce sera toujours le terrain favorable pour les mensonges de l'ennemi et pour nous faire mourir dans le désert, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans ce message d'introduction, dans les généralités, qu'est-ce qu'on va considérer ensemble ? On va considérer des choses très simples, je vous parle de choses vraiment fondamentales, basiques, mais c'est généralement toujours sur ces choses-là que le diable attaque en premier. Le désert, c'est pour tout le monde. Pas de jaloux. Le désert, c'est un principe biblique. C'est un principe spirituel. Ça me plaît pas, j'y passerai. Et pas qu'une fois. On y passe de différentes façons, à différents moments. Le désert, c'est pour tous les enfants de Dieu. Alors non, frères et sœurs, est-ce qu'on pourrait déjà commencer par enlever ça de nos esprits, parce que le diable est un sacré menteur? En même temps, c'est sa nature, il ne fait que proférer le mensonge. Non, ce n'est pas une punition. Jésus n'a rien à régler avec toi. Jésus n'a rien à te faire payer. Si Jésus, il faut être logique, si Jésus a encore quelque chose à nous faire payer d'une façon ou d'une autre, c'est qu'à la croix, excusez-moi, il a raté son coup. Il n'a pas payé toute la facture, il n'a pas payé toute la dette. Donc, le Seigneur n'a pas manquer son coup à la croix, la dette est payée, il me délivre de la colère, je suis son enfant, Dieu n'a pas à me punir, il ne cherche pas à me punir, et non, le désert, c'est pas pour les mauvais chrétiens, c'est pas pour les mauvais élèves, le désert, il est pour tous, le désert, c'est pour tout, j'ai mis un S majuscule, le désert, c'est pour tous ses enfants. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sorti d'Égypte, vous êtes sorti de votre ancienne vie, vous avez dit non à ce monde par la repentance, par la foi, vous vous êtes engagé avec Jésus, vous lui avez dit oui Seigneur, je te suivrai. Évidemment, j'ai très vite compris que ce ne serait pas par mes forces, mais par la grâce, par les ressources que tu vas me donner. Ta grâce me permettra de te suivre. Seigneur, je te suivrai. Mais le Seigneur, s'il veut que je le suive, il va nécessairement m'entraîner sur des chemins que je n'ai pas choisis. Notamment les chemins de désert. Le désert est pour tous ses enfants. T'es dans le désert ? C'est bien la preuve que t'es chrétien. T'as des problèmes ? C'est bien la preuve que t'es chrétien. C'est bien. Paul dit aux Philippiens, vous avez des adversaires ? Ben, c'est bien la preuve que vous êtes sauvés et qu'eux, ils sont perdus. C'est pour tous ses enfants qu'il veut tester, qu'il veut éduquer, qu'il veut former, qu'il veut voir grandir. Je commence à souligner ici un petit peu avec quelques mots la pédagogie du désert. Le désert est une école. C'est une école. Frères et sœurs, il y a des choses que vous n'apprendrez jamais sur les chaises de l'église évangélique. Même si demain vous aviez le meilleur des pasteurs, le meilleur des enseignants, avec la plus grande onction, il y a des choses que vous n'apprendrez jamais sur les chaises d'une église. Mais vous les apprendrez à l'école du désert. Et l'école du désert, c'est l'école de Dieu. C'est là que Dieu forme ses adorateurs, c'est là que Dieu forme ses ouvriers, c'est là que Dieu nous forge, nous teste, nous éprouve. J'ai mis cette toute petite phrase qui m'est revenue hier en notant. La preuve par l'épreuve. J'aime bien ça. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est concis. Dans le désert, on le verra, ça fait partie des objectifs de Dieu. On est obligé de faire nos preuves. Il faut que nous fassions nos preuves. Nous sommes testés, oui frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, nous irons dans le désert, parce que dans le désert, à l'image de notre maître Jésus, nous devrons être testés. Jésus, il sort du désert victorieux, il a passé le test avec succès, ok, il est fiable, on peut le suivre. Ça s'appelle la preuve par l'épreuve. Je vous ai mis ici en référence, pour vous dire que c'est pour tous, que ce n'est pas une histoire de mérite, que ce n'est pas une histoire de punition. Job 1.8, Satan a le toupet de se présenter devant le trône de Dieu, puis Dieu lui dit, dis donc Satan, tu as vu mon serviteur Job ? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne du mal. Et Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Vous n'allez pas me dire que le désert, c'est une punition. Hein. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Et vous savez par quel désert terrifiant il est passé. Jésus vient de rentrer dans son ministère public. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme corporelle de la colombe. Et il entend cette voix, il y a ce message extraordinaire d'approbation. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Sur les trois versets, je suis en train de vous citer Marc 1, verset 10. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Si le Fils bien-aimé, le Saint, le Parfait, l'Immuable, l'Éternel, celui chez qui on n'a jamais trouvé la moindre faute, l'ombre du commencement, d'une erreur ou de quelque chose de mauvais, celui qui est parfait, il a été dans le désert. Vous avez compris, hein ? C'est pas une histoire de mérite. C'est pas une histoire de punir. C'est pas Dieu a rien à nous faire payer. Il y a des chemins, il y a des principes. Comprenons que quand nous passons par le désert, c'est normal. C'est une école, c'est un chemin. Dieu nous fait passer par là. Et tant que j'aurai pas évincé de mon esprit les pensées du genre « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je me demande ce que j'ai fait à Dieu. Mais est-ce que le Seigneur il m'a pas puni ? Mais est-ce que le Seigneur il m'a pas abandonné ? Mais est-ce que le Seigneur il m'aime toujours ? Je sais pourquoi je vous dis ça. Je sais pourquoi je vous dis ça. Je sais pourquoi je vous dis ça. Je sais pourquoi j'insiste. Parce que je sais ce que vous pensez. Parce que vous me le dites. Je ne lis pas dans vos pensées, mais vous me dites ce que vous pensez. Vous me le dites, c'est vous qui me le dites. Alors j'insiste. Il faut vraiment que j'enlève de mon esprit qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça ? Est-ce que j'ai péché ? Est-ce que le Seigneur m'en veut ? Est-ce que le Seigneur m'a abandonné ? Est-ce que... Non, 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 c'est pas une punition, c'est une école. Vous pouvez être un super chrétien, marcher fidèlement, marcher de façon intègre, avoir un exemple, un témoignage de vie, une vie de sanctification, être un modèle, dans une certaine mesure, un exemple pour les autres croyants, avoir un bon témoignage auprès de ceux qui vous entourent, même des inconvertis, et vous allez dans le désert. Il y a des moments où on est là, frères et sœurs, on peut vivre des moments forts avec Dieu. Parfois, je sens dans les temps de louange, dans les temps de culte, je m'arrête de chanter, je suis pris, je suis saisi, je sens la présence de Dieu qui est là. Il y a des moments dans nos rencontres, dans nos moments, on sent que l'Esprit est là, on sent que l'Esprit agit, c'est bon, ça nous nourrit, c'est frais, c'est apaisant, c'est rafraîchissant. On sent la présence de Dieu, c'est bon. Et le lendemain, je me réveille le lundi matin. Alors quand je vous dis rien, vous allez dire, oh purée, il est bizarre le pasteur. Oh, le pasteur, il se lève pas le lundi matin à 4 heures, comme ça, pour sauter du lit avec le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Rien. Je ressens rien. J'ouvre mes yeux, je dis, ça y est, je sais qu'on est lundi, d'accord, merci Seigneur. Allez, on va marcher par la foi. Ces moments où vous pouvez avoir vécu une grande bénédiction, une grande délivrance, le Seigneur a agi. Je me souviens, je serai le plus concret possible, hein. Je me souviens la nuit, je vous ai dit, une des nuits fortes de ma vie, 31 octobre au 1er novembre 2006. J'ai vraiment été baptisé, visité, je suis resté des heures dans la présence de Dieu pendant des heures. J'ai parlé des langues et des langues, j'étais dans la présence de Dieu une grande partie de la nuit. Le lendemain, c'était pas bien loin, le lendemain soir, j'essaye de me mettre dans la présence de Dieu et je me dis, et là, c'était dur, c'était sec, il n'y avait rien, je me battais. Et Dieu me dit, c'est un acte de foi permanent. Il faut que je saisisse par la foi aujourd'hui comme hier. C'est pas par tes émotions, c'est un acte de foi permanent. Parle en langue, c'est un acte de foi permanent. Parle en langue. Et là, je me remets, je recommence, je réessaye. Et d'un seul coup, ça y est, ça repart. Ouh, le fleuve est là. Oh, merci Seigneur, j'avais pas perdu le fleuve, j'ai juste passé un petit désert. Vous pouvez vivre de grandes bénédictions, des délivrances, des exaucements. Et le lendemain, paf, il vous arrive un truc catastrophique. Je ne peux pas vivre avec des impressions, avec du ressenti, avec des émotions, avec des sensations. Je ne peux pas vivre en fonction de mes états d'âme. Je ne marche pas par la vue, je ne marche pas par le ressenti, je ne marche pas par les émotions, même si j'en ai, je ne suis pas un robot. Je marche par la foi. Et dans le désert, on verra, le désert est véritablement une école de foi. On apprend, c'est un apprentissage de la foi simple, profonde, suffisante, efficace. Dans le désert, j'apprends à trouver ou à retrouver la voie de Dieu. Ça, on en reparlera aussi. Autre chose qu'il faut considérer, le désert, c'est juste une étape. On a lu dans Exode 13, Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. La pensée de Dieu, ce n'était pas qu'il y reste. La pensée de Dieu, c'était qu'il passe par ce chemin-là. C'était juste un détour. Peut-être on pourra reparler dans les objectifs de Dieu dans les prochains soirs, on pourra parler justement de ces déserts dans lesquels Dieu, dans sa bienveillance, nous a mis pour nous protéger. Il y a des moments, frères et sœurs, le désert est une pure et simple protection. Dieu nous a soustrait, il nous a soustrait d'un milieu, il nous a soustrait d'une famille, il nous a soustrait d'une relation. Il a permis un concours de circonstances et je me suis retrouvé dans une forme de désert relationnel, sentimental, affectif, professionnel, maladie, etc. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'as enlevé cette relation? Pourquoi j'ai perdu cet ami? J'ai vu des jeunes, j'étais à Caen, c'était une ville universitaire, j'ai vu des tas de jeunes arriver dans la ville de Caen pour leurs études. Ils étaient complètement... ils étaient perdus, ils avaient leur regard ahuri, ils ne savaient plus où ils étaient. Ils disent, mais j'ai rien, j'ai personne, j'ai pas mes parents, j'ai pas ma famille, j'ai perdu mes amis, j'ai plus rien, j'arrive même pas à m'épanouir, cette église, elle ne me convient même pas. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans cette fac? Qu'est-ce que je fais dans cette... absence de famille, qu'est-ce que je fais dans cette ville, qu'est-ce que je fais dans cette église, pourquoi le Seigneur il a permis que mon dossier soit pris à Caen et pas à Lyon ou à Paris ou au Canada. Je suis à Caen, je fais mes études à Caen, je voulais aller au Canada, je suis à Caen. Plein, j'en ai eu plein des comme ça. Je ne fais de procès d'intention à personne. Je ne fais de procès d'intention à personne. Dieu sait ce qui t'attendait à Paris, à Lyon, au Canada ou je ne sais où. Dieu sait ce qui t'attendait. Dieu sait peut-être par quel combat tu serais passé. Dieu sait ce qui t'attendait si tu étais resté avec ce membre de famille, avec cet ami, avec ce collègue, avec cette collègue féminine de bureau. Dieu sait ce qui aurait pu se passer. Je fais de procès d'attention à personne. Dieu sait très bien pourquoi tu n'es plus dans cette entreprise-là et pourquoi tu es dans une autre. Pourquoi tu n'es pas dans cette ville-là, dans cette ville-là qui te paraît comme un désert. Pourquoi? Dieu le sait. Et Dieu, lorsqu'il a vu que son peuple sortait d'Égypte, ils avaient été esclaves pendant longtemps, ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas de formation, ils n'étaient pas encore préparés à la guerre. Ce qui fait que Dieu, dans sa grâce, ne leur a pas fait prendre, si vous regardez une carte, il ne leur a pas fait prendre le chemin le plus court, le chemin du nord, parce que là, il y avait les Philistins. Ils n'étaient pas prêts, ils se seraient retrouvés embarqués dans des combats qui les auraient totalement dépassés, et ils auraient fait demi-tour et seraient repartis en Égypte. Il y a des moments, frères et sœurs, Dieu permet que tu n'aies pas ça, que tu n'aies pas ça, que tu n'aies pas un tel, que tu n'aies pas une telle, que tu n'aies pas cette ville, que tu n'aies pas eu ci, que tu n'aies pas eu ça. Il ne t'a pas béni, il ne t'a pas répondu. Tu as l'impression qu'il ne t'a pas béni. Mais en te mettant dans un désert, il t'a béni. Il t'a protégé. Il t'a gardé. Il t'a évité le pire. Parce que tu ne sais pas à quel combat tu aurais été exposé, dans quoi tu te serais retrouvé embarqué. Mais le Seigneur, lui, dans sa bienveillance, dans sa souveraineté, dans son omniscience, il a vu, il savait, et il a dit, « Oh, il ne faut surtout pas qu'ils passent par là, ça va être leur perte. » Alors il leur a fait faire un détour par le chemin du désert. Le désert s'est trouvé être protecteur. Ça les a protégés du pire. Quand on dit qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, hein. Mais le Seigneur, lui, voit loin, hein, d'accord? Le désert, c'est juste une étape. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Le désert, c'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin du pays promis. C'est un principe. On ne rentre pas dans l'abondance spirituelle autrement que par un désert. On n'accède pas à une grande bénédiction autrement que par le désert qui s'appelle aussi l'école de la foi. On n'est pas élevé avant d'avoir été abaissé. Il n'y a pas le trône sans la croix. Il n'y a pas la gloire sans le tombeau. Il n'y a pas la vie de Dieu sans la mort à moi. Je vous parlerai dans les soirs qui viennent aussi parfois de tout ce que Dieu cherche. Il nous aime, mais de tout ce que Dieu cherche à briser dans le désert. Des choses qui se brisent littéralement à l'intérieur de nous pour qu'on puisse enfin vivre sa vie. Et il n'y a pas de la gloire sans la croix. Il n'y a pas le trône sans le tombeau. Il n'y a pas le pays promis sans le désert. C'est le chemin, c'est normal. Je ne suis pas appelé à m'y installer, je ne suis pas appelé à y mourir. C'est simplement, je dois le comprendre. Et c'est pour ça que je dis, tu peux relever ta tête, tu peux, peu importe ce que tu souffres aujourd'hui, tu peux relever ta tête, tu peux dire, Seigneur, je suis dans le désert. Merci, c'est normal. Ouf, je vais bien, je suis normal, c'est pour tous tes enfants. Seigneur, tu as quelque chose à m'apprendre, je suis sur le chemin d'une bénédiction. Je ne la vois pas encore. Je suis sur le chemin d'une bénédiction. Amen. C'est juste une étape. Charge à nous, on le verra aussi, de faire en sorte que nous n'allions pas entretenir notre désert et le rallonger. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Il y a malheureusement des déserts que nous entretenons. Nous, on les rallonge, les déserts. On remet du sable. Il n'y en a pas assez, on remet du sable. On rallonge nos déserts. Mais ça, on en parlera plus tard. Le désert, c'est juste une étape dans la pensée de Dieu. Rapidement, je vous parle des déserts dans lesquels Dieu nous conduit. Et je veux vous parler un petit peu aussi des déserts dans lesquels on s'est mis tout seul. Parce que des fois, on est tellement futé. On a trouvé un désert, on s'est mis dedans tout seul. Les déserts dans lesquels Dieu nous conduit, c'est très simple. Hein. Je vous ai mis des références ici pour ceux qui notent. Elles sont connues. Matthieu 4, « Aussitôt, l'Esprit conduit Jésus dans le désert. » C'est bien Dieu, le Saint-Esprit, qui a conduit Jésus dans le désert. Ézéchiel chapitre 20, je ne vous fais pas chercher. Dieu est juste en train de rappeler ici. « Je, c'est moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est moi qui les ai conduits dans le désert. » En parlant du peuple. Exode 13, on l'a vu ensemble, Dieu fit faire un détour au peuple par le désert. Dieu, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui les a conduits. Okay? Dieu l'a fait. Exode 7, 16, ça m'interpelle, c'était même prévu. Moïse parle déjà du désert avant que les enfants d'Israël n'en sortent. Puisqu'à un moment, ici, Exode 7, 16, Moïse dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve au désert. » Dieu avait dit à Moïse, « Je vais donner à ce peuple un bon et vaste pays. » Et lorsque Moïse parle à Pharaon, il ne dit pas, « Laisse aller le peuple pour qu'il aille dans le bon et vaste pays. » Non, non. Il dit, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve au désert. » Le passage par le désert était prévu avant même la sortie d'Égypte. Les difficultés par lesquelles tu passes, les difficultés désertiques, quelle que soit leur forme aujourd'hui, ton désert aujourd'hui, il était prévu par Dieu, il le savait, avant même que tu sois chrétien. Quand tu étais encore en Égypte, Dieu savait que tu allais en sortir et il savait par où il allait te faire passer. Il y a Osée chapitre 2 aussi. Voici, dit le Seigneur, en parlant de son épouse infidèle, voici, je vais l'attirer, je vais la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Mais ça, on y reviendra dans les soirées. Il y a aussi les déserts dans lesquels nous nous sommes mis tout seuls. Ah, j'aime bien ça. Les conséquences de nos inconséquences. Il y a eu une période de ma vie où j'ai eu des difficultés financières catastrophiques. Je vous garantis que ce n'est pas le Seigneur qui m'a mis dedans. J'étais en région parisienne, j'étais vaniteux, je voulais une grosse maison, j'avais les yeux plus gros que le ventre et plus gros que mon portefeuille. Des conseillers bancaires m'avaient dit, « Monsieur Brion, vous n'avez pas les reins assez solides pour construire. » Ils n'y connaissaient rien. Moi, je vais me faire une maison, puis non, non seulement je ne vais pas en faire une, je vais en faire deux. Comme ça, ils vont voir. Ah oui, ben j'ai vu, ouais. Je me suis retrouvé dans un désert financier, matériel, dans des galères, mais des galères. Un désert dans lequel je me suis mis tout seul. La grâce de Dieu m'en a sorti, évidemment. Dans le désert, Dieu était là. Il a fallu que j'apprenne. Je me suis repenti. Ah oui, il y a des domaines matériels, financiers, sur lesquels il faut se repentir aussi. Hein. Mais je me suis repenti. Et j'en suis sorti de mon désert. Tiens, puisque j'ai dit ça, il faut quand même que je le dise rapidement. J'en suis sorti le jour où j'ai retrouvé la voie de Dieu. Et quand j'étais dans la panade financière la plus terrible, c'est justement à ce moment-là que Dieu m'a dit « Donne-moi ta dîme. » Je dis « Seigneur, sors-moi de là, fais un miracle, s'il te plaît, règle-moi ce truc-là, puis après je te donnerai ma dîme. Parce que si je te donne ma dîme maintenant, j'ai l'impression que je vais scier la branche sur laquelle je suis assis, Seigneur. Je sais, je me repens, je te demande pardon, je sais que c'est de ma faute, Seigneur. Ok, je me repens, je ne recommencerai plus, ok. Mais sors-moi de là, puis ensuite je te rendrai ma dîme. » Que je ne t'ai pas donné depuis longtemps d'ailleurs. Sors-moi de là et je te la rendrai. Donne-moi ta dîme, obéis, et tu trouveras l'abondance, tu sortiras du désert. Oh, je ne vous dis pas le jour où j'ai fait le chèque. J'ai cru que j'allais me... J'étais décomposé sur place. Mais j'ai obéi et le Seigneur m'a fait grâce. Même, frères et sœurs, même les déserts dans lesquels nous nous sommes mis tout seuls, Dieu est là. Il reste un Dieu de grâce. Et ce Dieu-là, il a vu tous ces déserts. Il les a intégrés à son plan. Il savait que tu allais te planter avant que tu te plantes. Et il a permis. Il savait que ça allait lui servir. Il savait que j'allais me planter avant que je me plante. Mais il l'a permis. Il savait. Tout ça, c'était intégré à son plan. Un jour, quelqu'un m'a dit, un peu paniqué dans une situation, dit, mais Stéphane, mais si on a raté ce que Dieu voulait pour nous, si on n'a pas obéi, si on est dans un désert ou autre chose, si on a manqué le plan de Dieu, on a désobéi à Dieu, et puis on a une grande période d'errance, etc., et qu'on revient, il en est quoi du plan de Dieu pour nos vies? La question, c'était, est-ce que Dieu, il a aussi prévu un plan B? J'ai dit non. Dieu est tellement grand, il n'a même pas prévu de plan B. Il y a juste le plan A. Il a intégré tout ça dans son plan et il savait que tu allais te planter. Il le contrôle. Il est tellement souverain. Même ça, il le gère et il s'en sert. Merci Seigneur. On a un Dieu extraordinaire. Quelques exemples rapidement pour terminer. Ces déserts dans lesquels nous nous sommes mis tout seuls. Ben oui. Moïse, il est persuadé que il va, sous prétexte qu'il a un appel de Dieu, il est persuadé qu'il va faire l'œuvre de Dieu par ses propres forces. Vous connaissez ce récit dans l'Exode où Moïse tue un Égyptien? Et puis, il pensait que ça ne se savait pas, mais si, ça s'est su, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout se sait. Je ferme la parenthèse. Et Moïse, du coup, lorsqu'il voit deux Hébreux qui sont en train de se chicaner, il veut faire le juge, le grand frère. Là, les deux Hébreux lui disent, vous connaissez ce passage, est-ce que tu vas nous traiter comme tu as traité l'Égyptien? Nous aussi, tu vas nous régler nos problèmes comme ça? Moïse prend peur, et là, Moïse, c'est de sa faute. Il part, il fuit l'Égypte, et il se retrouve dans une période de 40 ans, qu'on peut vraiment décrire comme un désert, mais un désert que Dieu avait parfaitement intégré dans son plan, un désert qui va être formateur, puisque Moïse va devenir, à l'issue de ce désert, l'homme le plus doux et le plus patient de la terre. Le meurtrier va devenir l'homme le plus doux et le plus patient de la terre. Il y a Jacob. Jacob, après avoir trompé son père, volé son frère avec l'assentiment de sa mère, une fois qu'il a été démasqué, il a été obligé de prendre la fuite. Vous lisez l'histoire de Jacob. Jacob, c'est 20 ans d'errance, 20 ans de désert familial, 20 ans de tromperie, 20 ans de fuite, 20 ans de magouille, 20 ans de galère, 20 ans de désert familial, jusqu'au moment où... Mais Dieu l'avait prévu dans son plan. Dieu arrive à l'attraper au gué de Jabok. Il va authentiquement être brisé. Et Jacob va devenir l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Tout simplement. Élie, il est sur le mont Carmel. Élie, c'est extraordinaire, cette victoire sur le mont Carmel face aux faux prophètes. Là, c'est un temps fort, c'est un moment exceptionnel, extraordinaire. Et juste après, ce n'est pas Dieu qui l'envoie dans le désert. Juste après, il va aller dans le désert tout seul. Parce qu'il cesse de marcher par la foi, il cesse de regarder à Dieu, il va regarder, il va écouter les menaces de Jézabel. Vous connaissez ça? Et il est dit que dans sa peur, dans sa frayeur, Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie, et il alla dans le désert, et là, il demanda la mort. De là, il ira dans une caverne, mais on sait que la grâce de Dieu va revenir le chercher, que la grâce de Dieu va pourvoir à ses besoins, que Dieu va se révéler, que Dieu va lui permettre de reprendre son chemin, etc., etc. Frères et sœurs, même dans les déserts dans lesquels nous nous sommes mis tout seuls, et là je ne veux pas être méchant, hein, mais il y a combien de pasteurs, il y a combien de chrétiens qui sont comme Jacob, qui sont en fuite. Ah, ça ne va pas là, pouf, je m'en vais, hop, je vais là. Ah, ça ne va pas là, hop, je m'en vais, oh, je vais là. Ah, ça ne va pas là, hop, oh, j'entends, ah, le Seigneur m'appelle, il faut que j'aille là-bas. Ah, ah, t'es sûr, d'accord, vas-y. Et puis comme ça, pendant 10, 15, 20 ans, et puis on fuit, on est dans des déserts. On ne veut pas régler les problèmes. On ne veut pas se retrouver face à face, seul à seul avec Dieu, comme Jacob à son Guet Jabok. Alors, on est là, on fuit. Il y a tellement de domaines dans lesquels on peut fuir, malheureusement. Mais voyez, frères et sœurs, ce qui me rassure, c'est que même dans ces déserts, qui sont les conséquences de nos inconséquences, la grâce de Dieu est là. Le Seigneur est là. Il est présent. Il veut nous... Il veut pourvoir, il veut manifester sa grâce, sa bienveillance, sa bonté. Comprenons, frères et sœurs, peut-être juste pour conclure ce message d'introduction, que le désert n'est pas incompatible avec la bienveillance de Dieu. Dieu permet que tu passes par le désert, que tu t'y sois mis tout seul ou qu'il t'y envoie. Dieu permet que tu passes par le désert, quelle que soit sa forme. Mais ça, ce n'est pas incompatible avec sa bienveillance. Dieu reste bienveillant. N'oublie pas qu'il a des objectifs pour toi, il a des buts. Dieu reste souverain. Dans le désert, Dieu te protège. Dans le désert, Dieu accorde sa provision. Dans le désert, Dieu intervient. Peut-être est-ce qu'on pourrait juste ce matin commencer à avoir juste une bonne vision du désert. Une juste vision des intentions de Dieu. Une juste vision de ce que Dieu veut faire. Et peut-être au lieu de se dire « Pourquoi ?» Simplement de se dire « Seigneur, pour quoi ?» C'est sûr, Seigneur, tu as des objectifs. Tu as un plan pour ma vie. Tu as des objectifs. Tu as des buts. Comment est-ce que tu veux te révéler? Où est-ce que tu veux m'emmener? Tu permets que je passe par tel manque, légitime, criant, douloureux, pressant, oppressant. Seigneur, qu'est-ce que tu veux produire dans cette situation? Quelle est la bénédiction qui se trouve derrière ce manque? Relève ta tête. Relève ta tête, je t'en supplie. Relève la tête. Et commence à regarder et de dire, Seigneur, si je suis là, c'est parce que tu veux m'emmener vers une bénédiction. Seigneur, tu veux m'emmener vers quelque chose de beau, de vaste, de bon, de plus grand. Et là, je vais déjà cesser et je vais fermer toutes sortes de portes spirituelles à l'ennemi pour qu'il ne puisse pas faire ses œuvres en moi au travers de mes pensées. Mais je vais du coup être totalement attentif à la voix de Dieu, à ce qu'il veut me dire, à ce qu'il veut me communiquer, et trouver le chemin qu'il veut me faire emprunter pour sortir du désert. Amen.